Vous écoutez
CKUT.
The following is a previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sur CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 19 septembre. Bientôt, on tend vers le printemps. Ah non, l'automne, il commence à faire un peu frette. L'hiver. Brice pense déjà à l'hiver. Non, Brice, on annonce un automne chaud. Alors, les journées chaudes sont devant nous, malgré la fraîcheur de la semaine.
L'hiver commence en décembre.
Non, mais moi, je crois qu'il va faire encore. Non, mais l'hiver finit cette semaine. La fin de semaine, là. Le 21,
l'été.
C'est fini.
Non,
l'été finit le 21.
Ouais.
Et puis là, on commence l'automne. Mais on va avoir un automne chaud. Fait que ne vous en faites pas, les gars. Ça va être correct. Alors, bienvenue à l'émission. Vous pouvez toujours nous suivre sur 88.3 FM ou sur la page Dignité Noire-CKIA FM, la page sur laquelle nous publions plein de choses toute la semaine, hein, tout ce qui concerne la communauté noire du Québec, du Canada, du monde. Et si vous manquez nos balados, nos émissions, c'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Alors, aujourd'hui, au menu, nous retrouvons Oumu, notre chère chroniqueuse littéraire. Salut Oumu.
Salut.
C'est la première de la saison.
Oui, première de la saison. Je suis vraiment contente d'être de retour.
Nous aussi, on est très contents de te recevoir. C'est la cinquième saison de l'émission, la cinquième année. Hein. Hey, ça fait longtemps, Brice. Brice et moi, ça fait 5 ans qu'on anime cette émission-là.
5 ans
bénévolement. On a commencé en 2017.
Moi, j'ai commencé en 2019.
C'est vrai? C'est vrai qu'au début, je peinais à trouver les metteurs en ondes. Il y avait plusieurs metteurs en ondes et puis Brice est venu. Bon, moi, ça fait 5 ans que j'anime ça. C'est toujours un plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Alors, Oumu va nous entretenir aujourd'hui d'une chroniqueuse du nom de Natasha Hounsou, qui est la compatriote de Brice, je pense. Alors, donc, elle a publié Cora, c'est ça?
Le voyage de Cora.
Le voyage de Cora, qui est un livre jeunesse.
Oui.
Donc, elle est d'Ontario, tu vas la recevoir tantôt. Elle est en ondes, je pense. Ensuite, tu vas t'entretenir avec une autre dame du nom d'Emmanuel Moussa par rapport à...
Un événement qu'elles organisent à Montréal dans quelques semaines, dans 2 semaines.
Ça s'appelle Soror.
Oui, exactement.
Soror événement, comme
exactement.
Sororité.
Exactement.
Puis après ça, à la fin, je vais recevoir... on finit l'émission là, en jasant avec mon chroniqueur de la politique africaine, Sidibé Pommier. On va jaser un peu de la situation politique au Mali. Qu'est-ce qui se passe? C'est un pays, une situation qu'on suit depuis quelques années, mettons là, parce que j'ai fait 4 ou 5 émissions là-dessus. Alors aujourd'hui, on va jaser avec Sidibé pour faire le tour de la situation. Comment les choses évoluent pas mal là. Là, on a changé le premier ministre Choguel Maïga. Il y a des bisbilles avec la Côte d'Ivoire. Il y a des ruptures avec la France. Il porte plainte contre la France devant les conseils des Nations Unies. Donc, il y a tellement de situations qui bougent là-bas au Mali. Puis, ce qui se passe au Mali est important parce que ça préfigure peut-être une phase de décolonisation, une phase supplémentaire de décolonisation par rapport au néocolonialisme français. Donc, on va faire le point d'ici une trentaine de minutes avec Sidibé Pommier. Alors, Oumu, je te laisse la conduite de l'émission parce que là, tu as 2 invités importantes. Donc, je te laisse la parole. Je serai en écoute. S'il y a de bonnes... si je peux faire des... intervenir, j'interviendrai. Mais là, c'est toi l'animatrice. Là. Alors, tu as l'honneur.
Parfait. Donc, moi déjà, c'est la première fois aujourd'hui que je vais me présenter avec mon nom complet et que je vais continuer à le faire. Donc, moi, je m'appelle Oumu Guiraud. pour plusieurs raisons, parce que chaque année, je fais le maximum pour voir ma famille. Lors d'une réunion de famille cet été, j'ai compris l'importance de mon nom de famille. J'ai fait l'arbre généalogique, etc. Donc maintenant, je vais me présenter toujours avec mon nom de famille. Donc je m'appelle Oumou Guiro.
Guiro,
ben c'est un patronyme qui vient du Mali. Donc on est originaire du Mali, et puis mes parents, ma famille, on habite à la frontière du Mali, frontière Mali-Sénégal, mais on est installé du côté Sénégal. Donc
tu hésitais
avant? J'hésitais parce que mon nom, il est pas forcément connu, il est pas du tout connu.
Ah ouais.
Donc
okay.
C'était ça, mais j'ai compris vraiment l'importance de la famille, donc maintenant c'est Oumou Guiro et ça sera à chaque fois Oumou Guiro.
Parfait, la famille est sacrée.
Donc on oublie
Bay Oumou. Non, Bay Oumou, c'est le nom de...
D'artiste,
là. Mais mon vrai prénom, c'est Oumou Guiro. Donc aujourd'hui, pour la première chronique littéraire de cette année, on reçoit Natacha. Merci Natacha d'avoir répondu à l'invitation.
C'est moi qui te remercie, Oumou Guiro. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir échanger avec toi.
Merci. Donc j'ai un petit rituel à la radio quand je fais des chroniques littéraires. Je demande toujours aux autrices que je rende compte comment elles sont tombées dans l'écriture. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur l'auteur, donc sur toi. Donc Natacha, comment es-tu tombée dans l'écriture ?
Alors comment je suis tombée dans l'écriture ? Écoute, c'est un peu le hasard. C'est pas le premier livre que j'écris. J'ai écrit un premier livre en 2017. Qui s'intitule Partir et pourquoi pas Toronto au Canada, et qui a été publié aux éditions et du livre en France. Et en fait, c'était vraiment de pouvoir faire un témoignage et un guide pratique de mon expérience lorsque j'ai immigré au Canada. Donc je voulais vraiment partager quelques conseils pour aider toute personne qui souhaitait s'installer à Toronto. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me relancer dans l'aventure d'écriture, et j'ai écrit le livre Le Voyage de Cora, qui a été publié cette année. Mais l'idée ici était d'écrire un livre pour les jeunes, un livre aussi diversifié en français qui mettait en avant des personnages noirs. Donc c'est un peu comme ça que j'ai écrit donc le livre.
Bah c'est super. Est-ce que tu peux nous parler du livre que tu as écrit, donc Le Voyage de Cora, de quoi ça parle?
Oui, alors donc d'abord je voudrais expliquer un petit peu donc le contexte. Cette histoire, en fait, elle m'a vraiment été inspirée par mes enfants, parce que je suis maman, mais aussi mes élèves, parce que j'enseigne le français en milieu minoritaire dans un programme donc d'immersion en Ontario. Et c'est vrai qu'au quotidien, je suis vraiment impressionnée par eux, parce qu'ils ont le courage et la volonté d'apprendre une nouvelle langue. Et on sait très bien que c'est pas évident parfois, c'est pas facile, mais ils s'accrochent, ils persévèrent. Et c'est un peu comme l'héroïne de l'histoire qui, elle va faire un voyage avec sa famille. Et lors de son voyage, elle va être confrontée à l'une de ses peurs, mais elle aura le soutien de ses proches, parce que je pense que dans la vie, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous tienne en fait la main. Et ici, Cora, elle sera soutenue par les membres de sa famille qui vont l'aider dans son cheminement, à prendre confiance en elle, à croire en soi. Et c'est un peu aussi ce que je fais au quotidien en classe, en tant que prof, auprès donc de mes élèves. Donc voilà. Et ça raconte vraiment l'histoire d'une petite fille qui est confrontée à l'une de ses plus grandes peurs, et elle va passer par différentes émotions. Voilà un petit peu.
Oui, super. En fait, justement, c'est la question que j'allais te poser, à qui tu t'adressais. Donc, tu t'adresses vraiment, comme tu le disais, aux enfants. Est-ce que ton livre a été auto-édité? Quelle est la maison d'édition qui a édité ton livre?
Alors, mon livre, il a été auto-édité donc par moi-même, hein, parce que j'ai pas voulu passer par la maison donc d'édition, vu que j'avais déjà eu cette expérience et que j'avais vraiment envie de me lancer corps et âme dans ce projet toute seule. Donc, lorsque j'ai écrit le texte, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes. Donc, il était important pour moi donc de choisir déjà un vocabulaire simple qui soit accessible pour permettre aux jeunes donc lecteurs de pouvoir le lire et de comprendre le sens de l'histoire. Et étant donné que je travaille moi dans un programme d'immersion en français, j'ai vraiment voulu inclure tous les types de lecteurs, donc que ce soit les apprenants de français langue seconde, les francophones, les jeunes, les plus âgés. Lorsque j'ai écrit le texte et qu'il me satisfaisait et qu'il était prêt, j'ai contacté ensuite une illustratrice qui s'appelle d'ailleurs Anastasia Rudic. Et on a beaucoup parlé du projet ensemble. Elle a vraiment fait un travail remarquable. Ses illustrations sont magnifiques. Elle a vraiment donné vie au texte. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges au niveau de la représentation, notamment des personnages noirs de l'histoire, parce que je lui ai demandé de retravailler donc certains des dessins. C'est très important pour moi que il y ait vraiment une image très positive qui ressorte en fait donc des illustrations. Et lorsqu'on a eu, c'était bon. Ensuite, j'ai dû faire pas mal de recherches pour pouvoir imprimer le livre toute seule, comme une grande. Je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, j'ai le livre qui est lu, qui est apprécié par des enfants, par des parents, par des enseignants aussi qui l'achètent. Donc voilà, je suis vraiment très contente.
Est-ce que tu pourrais nous dire, il s'adresse, parce que là, tu as dit qu'il s'adressait à plusieurs personnes, mais au niveau des âges, est-ce que tu pourrais préciser à partir de quel âge, en fait ?
Oui, alors, écoute, moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille qui a 2 ans et j'ai mon fils qui a 6 ans. Et je lis, en fait, donc l'histoire à ma fille. Et quand elle voit donc le personnage de Cora, elle s'identifie. La représentation, c'est tellement important. Alors, je suis trop contente. Donc, je pourrais dire vraiment dès qu'ils sont en fait petits. Je pense que il n'y a pas un âge vraiment pour pouvoir exposer en fait l'enfant à la lecture. Dès qu'il est bébé, on peut lire en fait donc des histoires. Comme je disais, le vocabulaire est vraiment très simple. C'est très bien illustré. Donc, même si il y a des mots qui ne peuvent pas être compris forcément par donc le bébé ou l'enfant qui a peut-être 1 an ou 2 ans, et bien à travers donc les images, on peut quand même discuter, on peut comprendre en fait donc le sens donc du texte. Donc ouais, je dirais dès qu'ils sont tout petits en fait. Hein.
Super. Est-ce que tu as rencontré quelques challenges en auto-éditant, parce que tu l'as dit, tu as écrit un premier livre où tu as été édité par une maison d'édition et là tu as auto-édité ton livre. C'est quoi les différences les plus notables que tu peux nous dire par rapport à ces deux choses, et puis aussi si tu as rencontré quelques challenges?
Alors je dirais déjà les coûts, parce que bien effectivement c'est un coût hein, de publier soi-même un livre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et également trouver un bon imprimeur qui fera bien donc le travail de manière à ce que vous soyez donc satisfait également du produit final. Mais vraiment, ce sont les coûts, parce que il faut payer. Il faut payer pour l'impression, il faut payer pour les illustrations, il faut payer pour tout en fait. Donc,
avec l'impression.
Exactement.
Mm-hmm. Super. Donc aussi, je voulais parler aussi de ton métier de professeur. On est en septembre, c'est encore le mois de la rentrée scolaire. J'aimerais un peu qu'on s'attarde un peu sur ça et de l'importance de l'école. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles de ton métier de professeur. Je l'ai pas précisé, toi tu l'as précisé, tu vis en Ontario. Alors, tu enseignes à quel niveau et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Tu en as un peu parlé, mais quelles sont les valeurs que tu transmets en tant que professeur?
Alors, waouh. Alors déjà, moi, j'enseigne cette année en première année. Donc c'est, comme je disais, donc un programme d'immersion en français. Donc ce sont des écoles en fait anglophones qui mettent en place le programme en français. Donc j'ai des élèves qui viennent de tous les horizons. Et ce qui est très important pour moi, je pense que ça répondrait peut-être à la question donc de valeur, c'est vraiment de créer dans ma salle de classe de français langue seconde un environnement qui est ouvert sur le monde, la culture de chacun, et qui valorise autant que possible finalement la présence de chacun dans la salle en fait de classe. Ça serait vraiment ça. Et pour ce faire, on essaye vraiment de construire la classe avec les élèves afin que chacun puisse y apporter sa contribution, que l'environnement de travail soit positif, et on met vraiment l'accent sur le fait que chaque enfant compte, chaque enfant a sa voix et qu'elle doit être entendue. Donc voilà, c'est essentiellement cela. Et puis oui.
Non, j'allais te poser une autre question parce qu'on est dans le magazine Dignité Noire et quels sont les conseils que tu donnerais à un parent immigrant ou non pour que son enfant réussisse à l'école en tant que professeur ou en tant que parent?
Alors en tant que professeur, je pense que ce qui est important déjà c'est de valoriser en fait sa culture, d'où on vient, ce que l'on est. C'est très important de le mettre en fait en avant et que l'enfant soit fier donc de son identité. Et puis je sais que, alors moi c'est vrai que j'ai le double rôle parce que je suis en même temps parent mais je suis également enseignante. Mais en tant que parent, ne pas hésiter vraiment à discuter avec l'enseignant, proposer également de venir parler de sa culture. Moi, je sais que j'offre des livres diversifiés aux enseignants de mes enfants, de manière à ce qu'ils puissent s'identifier aux personnages des histoires qui sont racontées en classe, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est d'être là parce que les parents sont nos partenaires en éducation, donc de ne pas hésiter vraiment à communiquer autant que possible avec l'enseignant. Et puis voilà, de s'impliquer, je pense que c'est aussi très important.
Merci Natacha. Alors quand est-ce et où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors moi je suis très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous me trouverez au nom de La Marelle Bleue, donc LAMARE2LE Bleu, BLEUE. Et j'ai également un site internet au même nom, La Marelle Bleue, et où je vends en fait le livre Le Voyage de Cora.
Super, merci beaucoup Natacha d'avoir répondu présente à cette invitation.
C'est moi qui te remercie. Je te remercie infiniment de m'avoir invitée. Ça me permet aussi d'avoir de la visibilité. Hein. Donc un grand merci à toi.
Merci. Donc on peut retrouver Le Voyage de Cora écrit par Natacha Hounsou et illustré par Anastasia Rudic sur le site lamarellebleu.com.
.ca.
.ca. La Marelle Bleue, oui. .ca. Merci, oui. Natacha.
Je te remercie infiniment. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sous CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Nous sommes le 19 septembre. Merci, Oumou, pour cette belle entrevue et puis cette autrice que tu me fais découvrir aussi.
Oui.
Que Brice a découvert aussi.
Oui, surtout, c'est important. Je pense que les enfants, en fait, que nos enfants... Quand je dis nos enfants, c'est les enfants, que les enfants puissent avoir des livres qui les représentent. Donc la lecture, comme l'a dit Natacha, ça peut commencer dès bébé, mais d'avoir des livres où il y a des personnes qui nous représentent, ben c'est toujours un plus.
Tu l'as lu le Cora, le Voyage de Cora?
Non, je l'ai pas lu parce que je l'ai commandé en retard.
Ok.
Mais je vais le recevoir. Je vais le recevoir et puis moi aussi sur ma page Instagram, je vais en commander deux et puis il y en a un que je vais faire tirer.
Bah
nous,
oui,
on va,
gagner.
Nous, on va tirer. Tu nous donnes, non? On va lire aussi, livre jeunesse.
On va lire le livre. Vous allez lire le livre jeunesse, puis je vais le faire tirer.
Ça va nous rappeler notre jeunesse, nous autres.
Ouais, hein, exactement.
Brice. Bah, il y a Sylvia Serbin. Elle était à Québec. On l'avait invitée à l'époque quand j'étais sur la table de concertation du mois de l'histoire noire. Là, on l'a invitée. Elle a fait un livre sur une des femmes, Madame Bodge, quelque chose comme ça. Une des femmes, tu sais, la révolte des femmes sénégalaises par rapport à la colonisation française. Mmh. Elle a fait un bon livre là-dessus, sur les femmes noires en général. Puis là, elle a extrait de ce livre-là des petits ouvrages jeunesse.
Ah, super.
Parlant des reines d'Afrique.
Super.
Des résistantes. Donc, elle s'appelle Bodge, là. Il y en a deux ou trois. Là. Puis, bah, c'est une amie, on est qui sur Facebook, là, et puis j'ai promis de l'inviter.
Ah, j'aimerais bien.
Cet automne, mais il faut que je lise les livres avant.
Ah ben si, moi je...
J'aime
si.
Pas éviter les auteurs sans avoir lu. Fait qu'elle, surtout les livres historiques, là.
Oui, c'est ça.
J'adore ça. Fait que... Mais je lui en ai parlé, elle est partante. Fait que dès que les deux livres vont sortir, je pense qu'il y a un qui est déjà sur le marché. Dès que les deux vont sortir, bah, moi je vais commander, puis on va l'éviter. C'est intéressant, je pense que c'est intéressant de nourrir l'imaginaire de nos jeunes. Sinon, bah, nos jeunes vont avoir un imaginaire blanc en Occident. On leur casse la tête avec des choses d'Occident. Et puis ils connaissent pas de notre histoire. Comment on peut rendre nos jeunes dignes et fiers d'eux et d'elles s'ils ne lisent pas, si on ne nourrit pas leur imaginaire des histoires de leur peuple, du peuple noir, des luttes des Noirs, de l'Afrique, n'est-ce pas? Il n'y a pas un peuple sans histoire, il n'y a pas un peuple sans culture, il n'y a pas un peuple sans terre. Les peuples noirs à travers le monde, que ce soit la diaspora historique ou d'aujourd'hui, ils ont une terre, l'Afrique, ils ont une histoire, l'histoire africaine, et ils ont une culture, les cultures africaines. Alors, il faut véhiculer ça à travers les livres. C'est important. Merci beaucoup, Brice. On va à une petite pause. Je ne t'endors pas avec mon discours panafricaniste, là, j'espère. Brice a la tête ailleurs. Je parle de belles choses comme ça, toi, tu penses à autre chose. Salut, Brice. Alors, une petite pause musicale, et puis on appelle Emmanuel Moussa.
Oui.
Qui, pour parler de l'événement Sororé événement, c'est ça? Sororé,
oui.
Je pense.
Soror.
Bon, écoute, faut pas que je me commette.
Suivez la réflexion sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Vous écoutez CKIA et le magazine Dignité Noire.
Bonsoir. Alors, vous êtes bien sur CKIA. Je viens de découvrir un nouveau mot, la soror. Je ne savais pas. Tu sais, on apprend tout le temps. Hein. Je veux dormir moins bête, c'est noir, ce soir. Je connaissais le mot sororité, mais le mot soror, je ne savais pas.
Je pense que c'est le français.
Tu prends le micro, Brice.
Je pense que c'est le français de.
Ton micro. On ne t'attend pas. Soror.
Ouais, tu soror, savais. C'est comme.
Seul.
Oui, ben, en fait, c'est le synonyme. Pas synonyme, mais c'est l'équivalent en anglais de sisterhood, je pense.
Ah, bah,
c'est
sororité.
Un ensemble de femmes ensemble qui...
Bah, sororité, c'est sisterhood. C'est
on ça, peut dire ça comme ça, à peu près.
Oh, Brice, donne-lui le micro, s'il te plaît.
Bah, j'ai pas regardé sur Internet.
Ouais, je pense sororité, c'est comme
sisterhood. C'est l'entrée d'entre femmes. Mais on va poser la question...
Sister, c'est comme soror. Bah, écoute, on va poser la question.
Sisterhood, tu vois, c'est comme brotherhood, des fraternités, quoi.
Drôle que les hommes se mettent à discuter de sororité. Parfait, alors vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM. N'hésitez pas à nous suivre aussi en balado hein, sur www.ckiafm.org. Chaque lundi, vous nous retrouvez sur 88.3 FM. Sinon, sur notre belle page Facebook, Dignité Noire-CKIA FM, pour écouter tout ce qui touche aux femmes noires. Alors, je donne la parole à Oumou qui nous fait découvrir. Hein. Ah, okay, j'ai mal prononcé. Ah, ah, je donne la parole à Ngiro.
Oumou Ngiro.
Elle m'appelle de son nom, alors.
Enfin, non, je rigole, tu peux m'appeler juste par mon prénom, c'est
alors,
correct.
Oumou Ngiro qui va recevoir Madame Emmanuelle Moussa afin de nous parler d'un bel événement qui va avoir lieu le 2 octobre pour ceux qui vont aller à Montréal. Sinon, bah, ceux qui sont à Montréal peuvent y aller. Oumou.
Oui, donc cet événement, c'est ces femmes qui changent nos narratives. Donc ce sont, c'est une conférence avec au panel plusieurs femmes racisées, dont Mariam Koulibaly, Mona Lisa Prosper, Amina Cricket, Audrey Diave, Carla Beauvais, Djamila Touré. Et donc on a des ateliers, panels, performances, cocktails. Donc voilà, moi on m'a invité, j'ai reçu l'invitation personnellement et je me suis dit bah ça serait intéressant de recevoir une des personnes qui organise cet événement pour plus nous en parler. Donc merci Emmanuelle Moussa d'être présente avec nous.
Merci, merci à vous pour l'invitation, très appréciée.
Oui, donc est-ce que déjà tu peux te présenter?
Oui, alors, comme tu l'as dit, moi, mon prénom, c'est Emmanuel. Je suis au Québec, ça fait 10 ans maintenant que j'y vis, et j'étais un peu à la recherche d'un groupe, d'un collectif, ou en tout cas de personnes qui me ressemblent, des femmes comme moi qui me ressemblent et avec qui j'aurais pu échanger. Donc c'est comme ça un peu qu'est née l'idée de mon podcast, la Zone Podcast, qui interviewe des entrepreneuses et des artistes issus de la diversité culturelle qui sont passés de leur zone de confort à leur zone de génie. Donc on parle de leur parcours, de leur rapport à elles-mêmes, au monde. On parle beaucoup aussi de créativité. Et c'est grâce à ce podcast notamment que j'ai rencontré les deux co-organisatrices de l'événement Soror, qui sont donc Sarah Mbala, qui a une émission sur YouTube qui s'appelle Women Talk That Talk, et qui est une émission vraiment incroyable où en fait on donne la parole à des femmes et aussi à des jeunes filles sur des sujets qui nous touchent nous, et surtout sans tabou, sans jugement et dans la bienveillance. Et la deuxième, c'est Adeline Louison, qui a un podcast qui s'appelle Noir et Femmes, et je pense que en fait le podcast porte bien son nom. Adeline aborde tous les sujets qui abordent les expériences de vie d'une femme noire. Donc voilà pour la présentation.
Merci Emmanuel. Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi l'événement, pourquoi ça a été mis en place?
Donc ben comme je l'ai dit, c'est ça, on s'est réunis, Adeline, Sarah et moi, pour former le collectif Soror, qui d'ailleurs veut dire en fait sœur, tout simplement. L'idée, c'était de pouvoir transcender ou enfin dépasser le virtuel qu'on a avec nos différents médias, et de pouvoir rencontrer les personnes qui nous écoutent, ou du moins les personnes qui pourraient être intéressées par les sujets qu'on aborde nous déjà sur YouTube ou dans les podcasts. Et en fait, on voulait tout simplement s'unir pour créer un espace de parole qui soit bienveillant, sans tabou, et dédié aux femmes qui sont issues des diasporas non occidentales, je vais dire, et qui se reconnaissent pas forcément dans les milieux mainstream, surtout ici en Occident. Donc en fait, Soror, c'est né de la volonté d'échanger, de s'éduquer sur des sujets qui nous touchent particulièrement, et ce dans le but de s'inspirer et de pouvoir créer ensemble. Donc l'événement va effectivement réunir pas mal de personnes. Donc tu les as bien nommées, Oumou. Il va y avoir Mariam Koulibaly qui va faire un atelier sur la confiance en soi dans le milieu professionnel. Amina Criquet qui est coach en neurosciences et qui va nous parler de connaissances et d'estime de soi. Donc ça, c'est les deux ateliers qu'il va y avoir dans l'après-midi. Et en début de soirée, il va y avoir trois conférences, donc animées par Adeline, Sarah et moi. Adeline va faire son Soror Talk, qui est un peu le dérivé d'un TED Talk, sauf que c'est pour Soror, où elle va nous parler de peau noire et de cheveux crépus, des caractéristiques qui sont assez exclue en fait de l'idéal de beauté occidentale. Donc elle va nous parler de ça, d'une perspective historique, sociologique, etc. Ensuite, il y aura donc Sarah qui va animer un panel qui s'appelle « Briser les codes, réinventer, agir autrement » avec donc Audrey Njavé qui est autrice d'un livre qui s'appelle « Tu deviendras mère » mais aussi directrice d'un centre pour la natalité en fait. Donc elle éduque les femmes et les familles à accueillir un nourrisson dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. Et Djamila Touré, qui est la fondatrice de Sayaspora, qui est donc une plateforme qui est dédiée aux femmes des diasporas africaines, caribéennes, du monde entier. Donc là, c'est déjà pour le second panel. Je ne sais pas si je vais, si c'est trop long ou pas.
Non,
mais le dernier panel, c'est celui que je vais animer. Et évidemment, moi, mon sujet de prédilection, c'est la créativité. Donc, c'est de ça dont on va parler avec Mona Lisa Prosper, qui est directrice du programme Entrepreneur Noir chez Futurepreneur, et Carla Beauvais. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Carla Beauvais, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle milite pour une meilleure représentation et inclusion des communautés noires à travers le Québec et le Canada. Donc, c'est une entrepreneure sociale et qui a notamment cofondé le Gala Dynastie. Donc voilà, c'est déjà un petit échantillon de toutes les personnes qu'il va y avoir, mais on vous offre, on va vous réserver plein de surprises. Il y a un pop-up store où on a des exposantes qui sont presque exclusivement en fait des entreprises black-owned. Et c'est un pop-up store qui est vraiment dédié au self-care, donc aux soins de soi. Et il y aura aussi un buffet antillais qui nous est délicieusement préparé par Passion Madras. Et donc c'est un buffet et un cocktail à la fin en fait des conférences autour duquel on va pouvoir échanger, discuter, approfondir tous les sujets dont on a parlé, dont on aura parlé durant tout l'après-midi et le début de soirée. Et tout ça, ça se passera à Logan Plaza de Montréal le dimanche 2 octobre. Voilà.
Super. Là, en fait, c'est à Montréal. Est-ce que ce sera un événement qui sera retransmis en ligne ou il faut absolument qu'on soit à Montréal parce que nous, on est situé à Québec? Donc, est-ce qu'il y a un mode hybride où tout se passe ce jour-là et si on rate, tant pis?
Ben, c'est ça, c'est que c'est vraiment un événement unique qui va se dérouler en personne. Il n'y aura pas de retransmission en direct, surtout que je ne l'ai pas mentionné, mais il va aussi y avoir deux performances artistiques. Une qui sera faite par Weary Poetry, qui est donc une poète et une slameuse à Montréal. Et il va aussi y avoir Lakeisha, qui est danseuse. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Elle a participé à plusieurs shows aussi télévisés. Elle parcourt le monde aussi en suivant sa passion de la danse. Donc ça, c'est des shows qui ne pourront pas être retransmis virtuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à venir, même à faire le déplacement, si vous le pouvez, à Montréal pour vous joindre à nous.
C'est super, merci beaucoup Emmanuel Moussa de nous avoir présenté cet événement qui est organisé par Soror Événements. Donc comme tu le disais, le dimanche 2 octobre de 15h à 21h et on peut retrouver la billetterie parce que c'est un événement qui est payant sur lepointdevente.com.
Exactement, sur lepointdevente.com, puis il y a l'événement Facebook aussi, si vous tapez sur Facebook Soror Ces femmes qui changent de narrative, vous allez tomber sur la page de l'événement. Ça va vous amener aussi à nos médias, Women Talk That Talk par Sarah, Noir et Femmes par Adeline et la Zoom Podcast de moi-même. Donc on fait beaucoup de communication de cet événement parce que le but c'est vraiment de rencontrer le plus de monde possible. Et je tiens à préciser que c'est un événement qui est inclusif. Je sais que j'ai beaucoup parlé de femmes, j'ai beaucoup parlé de femmes issues de la diversité culturelle, mais on invite en fait vraiment tout le monde à y participer.
Super. Bah, il y avait une question?
Oui, c'est Mbaye. Est-ce que c'est bon, là, c'est inclusif, mais y compris pour les hommes?
Oui, oui, oui. Parfait. Tout le monde peut venir.
Parfait, alors on va venir. Je
sais pas. Super.
Je sais pas si on peut.
J'ai hâte
si
de vous rencontrer.
Venir. Je sais pas si on peut venir, mais si on arrive à Montréal le 2 avec Brice, on fera un tour. On parlait de soror. Hein,
oui, de soror. Justement.
Moi, j'ai découvert, bah, c'est la première fois. Ce soir, je savais que sororité existe, là, mais c'est soror, là, j'ai découvert ça aujourd'hui.
Ouais.
Ça veut dire sœur, oui, ça?
Exactement. Ben, ça a plusieurs significations, mais ça veut dire sœur, ça veut aussi dire fille, cousine. Ça veut aussi dire femme, en fait une amie femme, okay. Et c'est dérivé du latin. Donc c'est un mot, on savait que ça allait pouvoir, ça allait sonner des cloches en fait à beaucoup de personnes d'entendre ce mot-là, et c'est pour ça qu'on l'a choisi.
Super, au moins ça m'aide à ne pas dormir. Ce soir je vais dormir en état moins ignorant.
Oui.
Merci beaucoup Madame Moussa.
Merci Emmanuel d'avoir répondu présente à cette invitation.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CIA.
Oh. T'es fatigué, Mbaye. Hein.
C'est Kaya, c'est Kaya. Bah, j'ai fait du télétravail en plus aujourd'hui. En fait, c'est
on n'est pas aux États-Unis.
J'ai trahi quelque chose. Hein. On dirait que je travaille pour la CIA. Non, je ne travaille pas pour la CIA. Je suis anti-CIA au contraire. Alors, vous êtes bien sur CKIA. Nous sommes à 19h41. Il nous reste quoi, 15-16 minutes. Le temps de jaser avec Ibrahim Sidibé Pommier sur la situation politique au Mali. Merci beaucoup, Oumou. C'est un plaisir de te retrouver.
Ça fait plaisir.
Marielle te dit bon retour. Donc, tu vas lui répondre sur
Facebook.
Sur Facebook. Merci beaucoup, Amadou Diallo, mon ami Diallo, qui nous suit depuis la Guinée. La Guinée qu'on a accueillie, il est 23h là-bas, il nous suit. Merci à Laurentine, bienvenue Zambo Alès, qui nous a écrit aussi. Laurentine, qui était l'une des premières chroniqueuses de la radio, de notre émission. Alors, c'est toujours intéressant de savoir que d'autres personnes nous suivent et ne nous abandonnent pas, n'est-ce pas? Comme Oumou, comme oui. Ibrahima, comme Aboubacar Amir qui nous suit toujours sur la page Facebook. Merci Oumou, un dernier mot?
Non, on se retrouve...
Dans deux semaines?
Dans deux semaines, ouais.
Oh, que c'est long, deux semaines.
Ouais, deux semaines, c'est long, mais c'est bien.
Souvent.
Dans Madame deux semaines, c'est bien. Mais c'est ça, Oumou Guiraud.
Madame Guiraud. Parfait, bonne soirée. Ibrahima, bah écoute, on n'a pas de temps, fait qu'on va enchaîner directement, je pense. Ça te va? Alors, bah parfait. Mais en plus, c'est Guiro Oumou, elle a des racines maliennes en plus.
Ouais, c'est ouais. Ça, j'entendais. Là, bah oui, j'aurais pu échanger un peu avec.
Bon, mais vous allez échanger hors ligne.
C'est ça.
On va faire, vous allez faire vos arbres généalogiques hors ligne, hors onde, là. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire le. Aujourd'hui, bah, je veux. Moi, je suis intéressé personnellement aussi, et puis je pense que vous serez aussi intéressé à connaître la dynamique politique au Mali. Hein. Au Mali, ça fait plusieurs années qu'il y a une crise politique. On a fait plusieurs émissions là-dessus, et les choses changent plus ou moins. La dynamique critique continue. Alors, de temps en temps, on invite un universitaire ou notre chroniqueur, Ibrahima, pour faire le point là-dessus. Puis, bah, aujourd'hui, je pense qu'il est dû. On est dû pour faire un point là-dessus sur la situation au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? On prend prétexte du changement du Premier ministre Choguel Maïga, qui était quand même l'un des tenants du changement. On l'a remplacé. Pour quelles conditions? On ne sait même pas. Pour quelle cause? On ne sait pas. Où est-ce qu'il est? On ne sait même pas. Tu vas nous dire ça, Ibrahima. Bonsoir, Ibrahima.
Bonsoir, Mbaye. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein.
Alors, toi, je rappelle que tu es notre chroniqueur de la politique africaine. Donc, tu nous éclaires de temps en temps sur la politique africaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse le tour sur la situation au Mali, sur quatre points précis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la dynamique? Comment ça évolue, là, la junte militaire? Parce que, bon, pour nous autres panafricanistes, ça nous a inspiré un peu de l'espoir, hein, ce changement au niveau du Mali, avec toutes les dynamiques de rupture avec les forces coloniales, etc. Mais là, on voit que le Premier ministre a changé, on ne sait pas ce qu'il devient, on a nommé un nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe à l'interne? Comment la population reçoit ces changements? Deuxième point, on va voir au niveau sous-régional. Il y a une quarantaine de militaires ivoiriens qui sont kidnappés, entre guillemets, au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les autres pays, je pense que la dernière fois, il y avait le président sénégalais qui était là-bas. Il a semblé donner un appui à la junte, disant que c'est mieux de venir voir des visus ce qui se passe plutôt que d'écouter ce qu'on lui raconte. Ensuite, les dynamiques non-africaines, extra-africaines, avec la France, n'est-ce pas? La rupture d'avec la France, puis une plainte que le Mali a portée devant, je pense, le Conseil de sécurité des Nations Unies, et les bruits sur Les Russes qui prennent de plus en plus pied là, est-ce que c'est vrai ou pas? Les autorités nient, oui. Alors qu'on voit les images qui pensent qu'ils sont là, des instructeurs. Alors voilà,
les on va commencer par aussi. Les militaires, les 49 militaires.
Oui, oui, ivoiriens là. Mais on ouais, ivoirien, oui. Ouais. Alors on va commencer par la dynamique interne. Où est Choguel Maïga?
Oui, alors.
L'ancien premier ministre qui a été dit.
C'est sûr que Choguel Maïga est officiellement, donc, a eu une grosse fatigue. Hein. C'est ce qui a été dit et depuis, donc, il est. En repos médical. Ça, c'est okay. Le discours officiel.
Mais à l'interne, il se repose.
Ça, c'est le discours officiel. Mais depuis, quand même, bientôt 3 semaines, personne n'a de nouvelles. Et ce qui commence à réellement à inquiéter donc, la société, les Maliens en général, quand on sait qu'en société sahélienne, quand les gens sont malades, il y a tout un balai pour venir prendre des nouvelles.
Ça ne se cache pas, dans le fond.
Saluer. Donc, ce qui est sûr, on sait simplement que. Pour l'instant, le pouvoir ne communique pas là-dessus. Donc, tout le monde a vu la nomination donc, d'un premier ministre par intérim qui s'appelle aussi Maïga. Qui est un militaire et qui était donc le porte-parole, celui qui lisait les communiqués du gouvernement tous les, enfin, quand il y avait des clashs et des tensions avec la France et autres. Ouais. Donc, et qui est le ministre de l'administration territoriale. Okay. Donc, c'est sûr que certains pensent qu'il y a quelque chose peut-être à cacher. Est-ce que cette maladie de Choguel est un prétexte pour les militaires peut-être de l'écarter, sachant qu'ils commençaient quand même aussi à poser quelques problèmes en interne parce que tous les partis politiques qui étaient derrière le système de IBK et autres pensaient que ciblait Choguel, quoi. Okay. Donc, non seulement il était la cible de ces partis qui sont mécontents du fait qu'il a eu cette aura sur le plan sous-régional et mondial avec son fameux discours, justement, aux Nations Unies, ouais. Où il a attaqué la France, qu'il aurait abandonné le Mali en plein vol.
Mais justement, comment tu interprètes ça? Lui, c'était quand même un faucon, un peu. Là, il critiquait beaucoup la France.
Ben, c'était un faucon et un idéologue en même temps.
Alors, est-ce que sa démission traduit un certain infléchissement du régime par rapport à la France et aux partenaires extérieurs? Parce que là, on limoge un faucon, mais en même temps, on remplace par un militaire qui tenait des paroles pas très amènes aussi à l'égard des partenaires.
Pour l'instant, c'est vraiment pas un limogeage. Un limogeage serait peut-être gros. Pour l'instant, c'est pour ça que je dis on ne sait pas. Donc, il est quand même simplement remplacé parce que le premier ministre Abdoulaye Maïga est toujours premier ministre par intérim.
Ok.
Ce qui suppose que il va revenir, mais le problème c'est que plus l'attente devient longue, plus les gens se posent des questions en disant mais
surtout qu'on communique pas autour de. Chez nous on communique pas beaucoup autour de la santé des chefs d'État.
Sauf que Choguel était quand même quelqu'un qui s'était distingué par une ouverture extraordinaire, une facilité justement à mettre tout sur table et à dire ce qu'il pense. Donc c'est pas quelqu'un qu'on peut enfermer comme ça dans une boîte. C'est un routier de la politique malienne depuis 30-40 ans presque. Hein.
Bah, c'est important de préciser que le nouveau Abdoulaye Maïga, il est premier ministre par intérim.
Exactement.
Donc peut-être que le poste est encore vacant. Mais j'avais lu aussi que les principaux partis, les partis du mouvement du 5G, tout ça là, commencer à être plus critique à l'égard même de Choguel Maïga aussi, parce qu'il semblait prendre un peu d'autonomie par rapport à ce mouvement-là.
Mais justement, parce que le M5-RFP, c'était le mouvement qui était un ramassis justement de groupes divers et qui s'était coalisé pour faire partir IBK.
Ouais. Ibrahim Aboubakar.
Ibrahim Aboubakar, c'était l'ancien président, donc. Cette coalition avait explosé.
Ok, ça n'existe plus là.
Ça n'existe. Enfin, ça existe, mais il n'y avait que la tendance de Choguel qui était restée. Donc les autres, justement, parce qu'ils n'avaient pas accès à des postes, des places, se sont progressivement ligués contre lui. Et puis à la figure emblématique.
L'imam
Diko.
C'était prononcé publiquement contre le régime à un moment donné, je pense.
Exactement. Lui, l'imam est en discrétion totale avec le régime et quelquefois même certains pensaient peut-être qu'on va l'arrêter parce qu'il avait tenu des propos extrêmement critiques sur les militaires. Mais bon, il est resté depuis dans son coin. Mais ce qui est sûr, l'imam aussi n'était plus sur la même longueur d'onde que Choguel, parce que son gendre
qui était député et tout avait été écarté par les militaires. Enfin, donc il y a quelques cuisines internes qui faisaient que justement Choguel créait de la crispation. Mais en même temps, il avait toujours cette aura de la rue malienne et de la société.
Il avait toujours le soutien populaire.
Ah oui, oui. Ah, ouais. Surtout parce que les gens adhéraient à ce qu'il dit, parce qu'il a toujours été cohérent. C'est l'un des rares hommes politiques maliens qui a toujours été cohérent par rapport à ce qu'il voulait.
Toujours.
Par rapport à ce qu'il... Et
ça, puis, les gens apprécient ça.
Et puis général. Sur cette espèce de fétichisation de la France et de la place de la France, c'est lui l'architecte de... C'est lui qui a sauvé les militaires.
Ok.
Donc c'est pour ça que certains pensent que si jamais ils se débarrassent de Choguel de cette façon-là, ça peut vraiment tourner de court, parce qu'ils sont venus chercher Choguel dans le contexte où ils étaient vraiment coincés. Parce qu'au départ, ils avaient essayé de monter un gouvernement en se passant du M5-RFP, au moment où il était soudé. Et ils étaient allés chercher justement ce général à la retraite, Mbandaou, et puis un premier ministre qui était... un diplomate qui était au Burkina Faso, mais finalement...
On l'a écarté très vite.
Il y a eu le deuxième coup d'État, et c'est à ce moment que Choguel est arrivé pour faire la rectification.
Ça, c'est les mots des révolutionnaires.
La rectification.
Mais peut-être qu'on veut le mettre un peu dans le... On le gèle un peu là pour que les tensions baissent. On ne sait jamais, on va voir ce qui s'en vient, mais comment, en une minute, là, comment la population reçoit toutes ces dynamiques, les ruptures avec la France? Comment la population reçoit ça?
Mais pour l'instant, la population reçoit ça positivement. C'est pour ça que, et d'ailleurs...
La tension avec les pays voisins aussi, tout ça. Même sur le plan économique, il y avait des embargos et tout, là.
Même les tensions, l'embargo de 6 mois a été... Justement, c'était le point fort où Choguel a été découvert. Parce que là, on a vu le talent de gestionnaire de l'État. Parce que pendant les 6 mois d'embargo, le Mali a réussi à tourner.
Ça en est sorti.
Alors que certains donnaient 3 semaines pour que tout s'écroule. Un pays englavé, et ils ont tenu, les salaires étaient payés, l'administration fonctionnait.
Mais la Guinée n'a pas fermé sa frontière quand même. Il y avait des échanges avec la Guinée quand même.
Ils ont découvert, évidemment, ils ont découvert le couloir et qu'on a crié, ils ont essayé de faire passer le coton par Nouakchott. Enfin, mais globalement, il n'y a pas eu de catastrophe.
Ouais, les gens prédisaient, on faisait des prédictions apocalyptiques.
Alors, exactement. Alors que je rappelle que Mali était encore aussi frappé par la Covid, la crise économique. Ouais.
Donc, le soutien populaire est là. La junte militaire a encore le soutien populaire derrière lui, donc.
Oui, le soutien populaire est là. Les gens voient le travail réellement sur le terrain, que ça change. Les méthodes ont changé. L'armée reprend du poil de la bête, même si elle encaisse des coups face aux djihadistes. Des zones entières sont libérées, même s'il y a toujours des problématiques après pour les sécuriser dans la longue durée. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la dynamique est là, et puis la peur a changé de camp par rapport aux forces obscures, justement ces groupes islamistes qui écumaient totalement le centre et le nord du pays, même si dans le nord, c'est toujours compliqué dans la zone des 3 frontières. On va revenir là-dessus par rapport à la France.
Oui, c'est ça. Bah, on va continuer tout de suite. Là. Peut-être parler d'abord de la Côte d'Ivoire. Là, il y a 6 minutes. Bon,
pour la Côte d'Ivoire,
La Côte d'Ivoire, là, on dit qu'il y a 49 militaires qui sont kidnappés. Comment ils sont tombés? Par hasard, ils sont arrivés au Mali. Et puis là, qu'est-ce qui se passe là?
C'est une affaire un peu... c'est un imbroglio incroyable, justement. Sous couvert des missions des Nations Unies, on a des forces donc, qui se sont retrouvées à l'aéroport de Bamako. 49 soldats, dont une vingtaine de forces spéciales ivoiriennes.
Sans autorisation des autorités
maliennes. Sans aucune autorisation, et avec un deuxième avion bourré d'armes.
Ah oui?
Oui, il y avait 2 avions. Donc un premier avion avec... Donc ces gens avaient des passeports ivoiriens, avec des badges des Nations Unies, et avec des professions qui n'avaient rien à voir avec leur profession. Des manœuvres, des cuisiniers, des étudiants, enfin des trucs incroyables. Donc, pour le pouvoir, ces gens, parce que les documents qu'ils avaient ne correspondaient en rien avec ce qu'ils étaient venus faire, étaient donc que des mercenaires. Et depuis, il y a une crise politique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'abord, dans une première phase, les autorités ivoiriennes avaient botté en touche en disant que non, ils sont venus dans le cadre des NSE. C'est un espèce de contrat que certains... Dans le cadre de la MUNISMA, qui est l'organe de
la Nations Unies, au Mali,
il y avait des forces qui étaient souvent remplacées. Mais sauf que les Nations Unies ont fini rapidement par dire non, 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 qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens.
Il y a Anguille Souroche, là.
Et du coup, alors, il y a eu une médiation du Togo qui commençait à donner quelques signes de positivité, puisque le Mali avait libéré les trois femmes, justement, ouais, du contingent. Et puis, brusquement, la Côte d'Ivoire s'est braquée. Récemment, il y a eu donc un communiqué du Conseil de sécurité de Ouattara pour dire que non, ils ne reconnaissent toujours pas. Parce que le Mali demandait simplement que la Côte d'Ivoire reconnaisse ses torts et demande des excuses pour, ouais, qu'ils puissent les libérer. Mais finalement, volte-face de Abidjan qui veut poursuivre le Mali devant donc la CEDEAO qui ressort. On ressort encore la CEDEAO. Ouais. Et puis,
C'est quand même spécial. Les Nations Unies ne reconnaissent pas le contingent des 49 soldats. Donc, toute personne ayant un bon sens va dire, mais ça, c'est comme une opération là, commandée depuis Abidjan pour dégommer la junte.
Mais c'est ça, surtout que la junte avait fait face quand même à... Déjà, Assimi Goïta avait failli être assassiné une fois dans une mosquée à Bamako.
Ah oui?
Oui, avec quelqu'un qui avait un couteau. Ça, c'était au début déjà de son mandat.
Ah oui, je me rappelle, oui.
Il avait échappé à un attentat. C'était la fête de la Tabaski. Alors, deuxième, il y a eu cette attaque terroriste islamiste sur la base de Katia, ouais, qui était quand même le coin le plus protégé de la zone de Bamako. Ils ont été repoussés extrêmement après des combats, presque. Hein. Et donc, certains pensent que, justement, ces commandos, ces mercenaires-là, devraient venir, en fait, dans ce schéma-là.
Ben oui, moi, j'y pense, je le pense aussi. Hein. C'est comme une autre opération sur Kolwezi.
Exactement.
Alors là, on compte un peu les soutiens sous-régionaux. Le Sénégal, je pense, commence à soutenir la junte quand même. Là. La Guinée, évidemment. La Guinée-Bissau, où est-ce qu'ils en sont? La Côte d'Ivoire, c'est une hostilité marquée. Là. Alassane Ouattara, alors, qui est un support de la
France. C'est sûr que, oui, il y a deux choses qu'il ne faut quand même pas mélanger. C'est vrai que les peuples africains soutiennent massivement ce qui se passe au Mali.
Mais les gouvernements, je veux dire.
Mais au niveau des gouvernements, oui, c'est sûr qu'il y a de la frilosité. Les gens ils voient ce militaire fougueux qui ne sort pas, qui ne parle pas beaucoup. Assimi Goïta.
Il n'a jamais voyagé, lui.
Non, mais par contre,
spécial,
qui est extrêmement rigide, qui ne transige pas sur certaines choses. Donc, pour lui, la souveraineté du Mali est non négociable et que donc il n'y a pas de limite à ça.
À part la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays aussi hostile, ouvertement hostile comme la Côte d'Ivoire.
Mais ouvertement hostile, c'est sûr qu'il y a le Niger et la Côte d'Ivoire qui sont...
Ah ouais, le Niger aussi.
Ah oui, le Niger actuellement.
Ouais, c'est le pion de la France maintenant,
c'est
le président
dans la mesure où Barkhane s'est retiré donc,
ouais,
au Niger,
là-bas.
Le pouvoir nigérien est de plus en plus critique. Ils ont été déjà critiques...
Hier, il y avait une manifestation populaire pour le départ des forces françaises du Mali, du Niger.
Du Niger, c'est, oui, pour ça qu'il y a de la tension. Mais bon, dans la société civile, c'est ce qu'il y a des groupes qui appellent ouvertement. On voit aussi au Tchad où il y a,
ouais,
eu des manifestations.
Ouais, 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 il y a une manif mercredi au Tchad.
Exactement, avec des destructions, des quelques emblèmes français et tout. Donc, mais sauf que ça ne suffit pas pour...
De faire partir.
Pour faire partir ou en tout cas générer une crise majeure comme ce qu'on a vu au Mali.
Deux minutes, mon cher.
Oui.
Vous parlez de la France et de la Russie.
Mais
cette rupture-là, là, il y a la rupture avec la France, plainte devant les Nations Unies, arrivée des forces russes. D'abord, hein, c'est vrai, il y a des Russes, il y a une base russe au Mali.
Oui, alors sur la Russie, c'est un peu à peu près la même chose que la maladie de Choguel. C'est sûr que la France en parle beaucoup sur le plan international, dans les réseaux diplomatiques français, mais dans la réalité, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on ne voit pas grand-chose.
Il n'y a pas une base.
Non, pour l'instant, non. C'est sûr qu'il y a des
instructeurs.
Pour les autorités, officiellement, ils disent que c'est des instructeurs qui sont là pour les aider à piloter les avions, les appareils qu'ils ont achetés. Mais sinon, dans les combats qui ont été faits à Tessit dans les derniers affrontements avec les djihadistes, chaque fois, on voit simplement que des soldats maliens devant.
Et la France, est-ce qu'elle est en train de faire des coups bas? Là, on a dit qu'il fournit des renseignements, les avions survolent. La rupture d'avec la France.
Mais c'est sûr que la plainte que le Mali a faite, le Mali dit qu'elle a des preuves tangibles, objectives, sur les agissements de la France. Alors, ils auraient donc des photos, des images, la France aurait transporté donc des terroristes qui étaient donc du Burkina, enfin de la zone des trois frontières jusqu'à la frontière mauritanienne.
Ah ouais.
Et puis surtout nos désirs.
Le matin, mon cadran est assez cailloté. Pendant le déjeuner, j'écoute ses cahutés. En me rendant au travail, j'écoute ses cahutés.
Pourquoi quelques yeux clairs veulent tout cahuter?
Au travail, on écoute tous ses cahutés. Pendant que je prépare le souper, c'est ses cahutés. Plus tard, pour relaxer, je syntonise ses cahutés. Et dans mon lit, j'écoute encore ses cahutés.
Ses cahutés! Ses cahutés!
Je capote sur toi.
Tout ça au 90.3 FM à Montréal.
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on aurait fait un beau grand discours réfléchi sur l'importance de la démocratie. Mais pour faire l'inverse, on va vous dire un tout petit mot, pas du tout réfléchi, qui n'a pas rapport avec la démocratie. Maringouin. Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Un message d'Élections Québec.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Cinema Politica Concordia is thrilled to invite you to the long-awaited launch of our fall 2022 season. Join us on October 3rd for a special screening of the award-winning film The Territory, a collaborative and deeply committed film about Indigenous land defenders protecting their traditional territory against encroaching deforestation brought by farmers and illegal settlers. Through dramatic landscapes and Indigenous filmed witness footage, The Territory highlights the global nature of Indigenous struggle for land and climate justice. On October 3rd, 7 p.m., room H110, Concordia's Hall Building, 1455 de Maisonneuve West. Venue is wheelchair accessible, donations kindly encouraged. CinemaPolitica.org or find us on social media. This is a CKUT Radio co-present. We'll be right back.
Yaya.
Hotel The Blues, you're on 90.3 CKUT FM. To get tonight's program started off, we're going to turn to...
I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you swallowed me whole. You're